Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les bulles nomades, le streetcast optimiste. Alors que l'été arrive, je reviens avec la séance trimestrielle de questions-réponses pour le printemps 2019. J'ai rassemblé quelques questions issues des commentaires sur le podcast, des réseaux sociaux, mais aussi de la chaîne YouTube, puisqu'elle traite de sujets similaires aux bulles nomades. Et donc, pour rappel, si vous avez des questions à partager avec moi et ou avec le reste de l'audience des bulles nomades, vous pouvez toujours me contacter par mail sur hello@floriteller.com, sur le Discord des Sweetcasters où je suis Florie, vous pouvez aussi me contacter sur Instagram et Twitter où je suis Floriteller, ou encore en commentaire sous les notes de l'émission sur le site floriteller.com/bn098. En attendant, sans plus tarder, voici la sélection de questions pour ce printemps 2019. Première question, Virginie, sur la vidéo YouTube où je présente mon processus créatif en 6 étapes, me demande « Pourquoi la simplicité est-elle un prélude au voyage créatif plutôt que l'une des étapes à part entière ?» Alors c'est une très bonne question. La vérité en toute transparence, c'est que c'est parce que j'ai ajouté la simplicité après coup, tout simplement. Dans la toute première version du voyage créatif, que j'ai présenté en podcast et en vidéo, à l'automne 2018, il n'y a que 5 étapes. Introspection, inspiration, création, organisation et partage. Et en fait, à mesure que j'ai développé des ressources autour du voyage créatif, notamment j'ai créé une fiche introductive qui est dispo pour les abonnés de la Floriteller, j'ai créé un guide introductif un peu plus massif, on va dire, pour les aventuriers sur Patreon, et je me suis rendu compte, finalement, en y réfléchissant, que la simplicité fait partie du voyage créatif. C'est-à-dire qu'avant de me lancer dans l'introspection, j'ai passé des années à simplifier ma vie, à trier le superflu à la fois matériel chez moi, mais aussi le superflu mental et dans mon emploi du temps. Et c'est cette simplification qui a permis d'ôter toutes les distractions et qui a finalement donné de l'espace mental qui m'a permis ensuite de me poser des questions sur ma vie, sur ma carrière, sur mes envies, sur ma voix, sur mes aspirations, etc. etc. Du coup, j'ai rajouté à l'époque la simplicité en tant que prélude, vu que j'avais déjà présenté le voyage créatif en 5 étapes. Mais le message de Virginie a mis le doigt sur un point vraiment intéressant, et ça m'a fait réfléchir à cette affaire de prélude, parce que finalement c'est pas très clair. Pourquoi il y a quand même que 5 étapes, mais un prélude, est-ce que ça fait 5, est-ce que ça fait 6? Pourquoi la simplicité c'est un prélude et pas un truc à part entière? Enfin bon, c'est sachant que le but premier du voyage créatif c'est précisément de simplifier les choses, et de vous présenter les ressources de manière simple et claire pour trouver votre voie VOIE, VOIX et insuffler une énergie créative à votre vie, vos projets ou vos questionnements. Voilà, je me suis dit, peut-être qu'il va falloir que je simplifie un petit peu les choses à ce niveau-là. Et je pense qu'il y aura un nouvel épisode des bulles nomades sur le voyage créatif une fois que tout ça sera au clair. Mais la version courte, c'est qu'il y aura bien 6 ingrédients et pas 5. Donc, simplicité, introspection, inspiration, création, organisation et partage. Et j'ai décidé de les appeler ingrédients plutôt qu'étapes, parce que ce sont des éléments dans lesquels vous pouvez puiser dans le désordre et en même temps, finalement. Ce ne sont pas des moments clés que vous atteignez, puis que vous laissez derrière vous, comme le mot étape peut le laisser entendre. Bref, on s'en reparlera. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas à me les poser. Mais la simplicité fait bien partie du voyage créatif, qui se décline donc en 6 parties. Deuxième question, Adeline de Noisette et Basilic, au sujet de la pub. Je pense que ça devait être sur un épisode de simplicité où je parlais de mes réserves quant à la publicité. Et donc elle me disait que pour elle, la publicité est quelque chose d'utile en tant que consommatrice d'un côté pour découvrir des petites marques, des artistes, etc. qui lui correspondent et que les algorithmes en fait de ciblage de pub lui recommandent, et aussi en tant qu'entrepreneuse pour faire connaître son service. Entre parenthèses, si vous ne connaissez pas Noisette et Basilic, c'est une ressource très très utile, je trouve, pour s'organiser de manière à mieux manger et à prendre des habitudes plus écologiques et plus saines dans la cuisine. Si vous voulez aller voir, c'est très très chouette. Alors, pour répondre à la question d'Adeline, je suis d'accord avec ce qu'elle soulève. J'ai moi-même découvert des petites marques très chouettes grâce aux posts sponsorisés sur Instagram pour ma part, puisque je n'utilise pas Facebook. Parce qu'il faut savoir qu'une campagne de pub sur Facebook ou Instagram peut se faire à moins de 100€. Là où, par exemple, une affiche dans le métro ou, je sais pas moi, une bannière sur un site un petit peu connu, ça peut coûter plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ce genre de pubs un peu traditionnelles sont complètement inabordables pour les petites marques, mais par contre, faire de la pub sur Instagram ou sur Facebook, c'est tout à fait abordable pour des auto-entrepreneurs, des startups, des artistes, des artisans, des petites marques, etc. etc. Et effectivement, dans le cadre du système tel qu'il est aujourd'hui, c'est un moyen de communication à prendre en compte. Et effectivement, en tant que consommatrice, je suis contente d'avoir découvert ces petites marques et je trouve que ces indés, ces petites entreprises, finalement, ont bien raison d'utiliser tous les outils à disposition dans le monde d'aujourd'hui pour se faire connaître auprès de leur public potentiellement intéressé par leurs services et leurs produits. Et si l'un de ces outils, c'est de la publicité sur les réseaux sociaux, ainsi soit-il, j'ai envie de vous dire. Maintenant, il y a deux choses qui me posent problème dans cette affaire et dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui. La première chose, c'est le caractère finalement passif et réactif de la pub et des posts proposés par les algorithmes en général. C'est-à-dire que là, j'ai un problème avec le fait que les flux d'actualité sur les réseaux sociaux, la plupart des réseaux sociaux, sont proposés par des algorithmes. En gros, ce que ça signifie, c'est que c'est le réseau social qui propose et nous devenons des consommateurs passifs, et réactifs. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que ça nous enlève notre intention. Ça prend le contrôle de notre attention. Ça décide à notre place ce qui va nous intéresser, en fait. Et c'est un peu la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à force de nous montrer tout le temps les mêmes contenus, bah oui, on va être intéressé par ça, on va cliquer sur ça. Donc l'algorithme va confirmer le fait qu'on est intéressé que par ça, et va nous montrer que ça, et on reste dans notre petite bulle. Et ça enlève toute place, en fait, à la découverte aléatoire, à... Bah, aussi à être confronté à des milieux sociaux, des milieux culturels, ou des opinions qui sont différentes des nôtres. Et c'est quelque chose qui me dérange, en fait. Et dans un monde idéal, je préférerais que les personnes qui, comme Adeline, souhaitent recevoir de la pub ciblée pour découvrir de nouvelles marques, cochent une case pour dire « j'accepte de recevoir de la pub » et cochent des cases avec leur centre d'intérêt de manière à ce qu'on garde le contrôle sur ce qu'on veut recevoir, finalement. Et que les personnes qui veulent pas recevoir de pub, comme moi par exemple, j'ai pas envie de recevoir de pub quand je suis dans une phase où j'ai pas envie de consommer, j'ai pas envie d'être tentée, etc. Je préfère faire une bonne vieille recherche quand je cherche une petite marque sur un domaine particulier. Donc je préférerais finalement que les choses restent proactives et non pas laisser en fait finalement le contrôle aux algorithmes. Ensuite, la deuxième chose qui me dérange, c'est la manière dont les propriétaires de ces réseaux sociaux, donc Facebook par exemple, monétisent l'interaction humaine. C'est-à-dire qu'à la base, une communauté, c'est quand même basé sur le partage, sur l'entraide, sur la découverte de personnes aux goûts similaires, qui peuvent s'entraider, qui peuvent s'apporter des choses. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que sur des réseaux comme Facebook et Instagram, c'est quasi impossible de se trouver une audience uniquement en comptant sur l'organique et donc sur la découverte propre à une communauté, à cause des algorithmes qui font barrage. Pour vous donner un exemple concret, quand vous avez une page Facebook, il n'y a que 5 à 8% des gens qui sont abonnés à la page qui voient les actualités apparaître sur leur flux. C'est-à-dire que c'est des gens, on parle même pas de découvrir de nouvelles personnes, c'est des gens qui vous ont déjà découvert, qui se sont abonnés à votre page, qui veulent avoir des informations de votre part, et l'algorithme les empêche de voir vos publications, parce que l'algorithme veut vous forcer à payer. Et moi, j'appelle ça de la prise d'otage, hein. J'apprécie pas du tout ce genre de fonctionnement. Du coup, évidemment qu'une petite marque, une entreprise qui se lance et qui recherche des clients, un auteur qui cherche des lecteurs, un artiste qui cherche d'éventuels acheteurs, etc., va être obligée de faire de la pub, parce que sinon, le réseau social tel qu'il est avec ses algorithmes ne suffit pas à se rendre visible. Eh bien moi, ça me pose souci que sur un réseau soi-disant social, où les utilisateurs sont là pour se connecter, pour découvrir des choses qui leur plaisent, etc., doivent passer par la pub pour se faire connaître du côté des marques et pour trouver des marques qui leur plaisent du côté des utilisateurs. Moi, ça me pose problème que la pub devienne une interface entre les gens, en fait. Et encore une fois, le fait que les marques elles-mêmes payent des campagnes de pub dans le système tel qu'il est maintenant, j'ai aucun souci avec ça. Ils sont bien obligés de faire avec les choses telles qu'elles sont maintenant. Et elles ont tout à fait raison d'utiliser tous les outils à dispo pour développer leur projet. Et peut-être qu'un jour, quand la petite boutique du voyage créatif sera ouverte, j'aurai moi-même recours à de la pub à mon tour. Ce que je remets en question, c'est le concept même que les propriétaires de ces réseaux sociaux ont créé les algorithmes pour séparer les utilisateurs les uns des autres et forcer les marques à faire de la pub pour se faire connaître. J'appelle ça monétiser le lien humain et j'aime pas ça. Voilà, donc ça c'était mon retour par rapport aux commentaires d'Adeline sur l'utilité des publicités sur les réseaux sociaux. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis les bulles nomades sur mon temps et mes deniers personnels et je tiens à ce que ce podcast reste sans pub. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez devenir coproducteur ou coproductrice de l'émission pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur les mécènes qui m'ont déjà rejointe. Troisième question, Elina sur YouTube me demande « Comment vivre son introspection quand on exerce un métier de contact ?» Et comment faire avec son introspection dans un monde qui valorise tellement l'apparence, la mise en avant de soi, l'expression et la communication ? Alors pour moi, la question est en lien avec la notion d'introversion et d'extraversion. On en reparlera très vite en vidéo. Mais en gros, les personnes introverties puisent leur énergie à l'intérieur d'elles-mêmes et sont plus promptes à l'introspection. Alors que les personnes extraverties puisent leur énergie dans le lien social avec autrui et sont davantage promptes à ce que souligne Elina, c'est-à-dire l'apparence, l'expression, la communication, etc. Aujourd'hui, le monde occidental, avec les États-Unis en tête, mais c'est aussi le cas de la société française telle que je la vis, dans une certaine mesure, hein, met en avant l'extraversion. Donc je ne sais pas si c'est le cas là où vous vivez, si vous êtes notamment belge, suisse ou canadien, n'hésitez pas à me dire quelle place prend l'extraversion par rapport à l'introversion dans votre pays et dans votre culture. Mais en tout cas, en France, je me souviens par exemple à l'adolescence que c'était très mal vu d'avoir un journal intime par exemple, ou de préférer lire ou jouer à la console le samedi soir plutôt que de sortir, ce genre de choses. Donc déjà, que vous soyez vous-même en tant qu'individu, plutôt introverti, extraverti ou un peu des deux, quelle que soit, voilà, vous, votre manière de voir les choses, c'est vrai que la société en elle-même n'encourage pas forcément la démarche d'introspection. Par exemple, c'est encore assez mal vu de se faire suivre en thérapie, alors que franchement, je pars du principe que ça ferait du bien à tout le monde. Ensuite, dans sa question, Elina soulève le cas particulier de personnes qui effectuent un métier de contact. Et je pense aussi, par exemple, au métier de soins au sens large, où on est beaucoup tourné vers l'autre. En gros, je peux simplifier la problématique de cette manière. Comment concilier le besoin ou l'envie d'introspection avec une société qui nous pousse à consacrer plutôt notre énergie à la relation à l'autre? Donc ça, c'est une très très vaste question, et je pense qu'il faudra un épisode entier pour y répondre, voire plus. Ce que j'ai envie de proposer aujourd'hui, c'est l'idée que l'introspection est un socle. C'est-à-dire que c'est en étant bien soi-même qu'on peut ensuite donner de l'énergie à autrui, que ce soit via la communication ou via un métier de contact par exemple. Donc c'est pas incompatible, bien au contraire, et c'est ça le message que j'ai envie de faire passer. On peut très bien consacrer du temps à son introspection, et au contraire, si on consacre du temps à notre introspection, ça nous permet de mieux donner notre attention, notre écoute et notre énergie quand notre propre batterie est saine et bien remplie. Ensuite, le deuxième aspect de la question, c'est comment remplir notre propre batterie et prendre le temps de l'introspection. Alors malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de secret, en y consacrant du temps. C'était finalement la leçon sous-jacente du livre Miracle Morning de Hal Elrod, si vous l'avez lu. C'est que sa thèse, c'est de nous proposer de se lever plus tôt chaque matin pour prendre le temps de l'introspection avant le début de la journée, donc avant de se tourner vers les autres. Donc là, moi je vous inviterais plutôt à choisir par vous-même le moment de la journée ou le moment de la semaine qui vous paraît le plus approprié. Donc ça peut être le matin avant que la maison se réveille comme le propose Hal Elrod, mais ça peut aussi être sur la pause midi, le soir, le week-end, c'est vraiment à vous de voir. Sachant qu'effectivement, un début de réponse à la question serait de mettre dans votre agenda de manière intentionnelle un moment pour l'introspection. Alors, que mettre dans ce moment? Alors là, il y a plein de choses possibles. J'ai parlé notamment de journal et de méditation dans les bulles nomades, peut-être une séance de psy, hein, personnellement, je suis suivie, et c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait pour ma santé et mon bien-être. Ça peut aussi être une activité de type yoga, sophrologie, rencontre de groupe sur un sujet particulier, etc. Ça peut être des exercices de type auto-coaching et connaissance de soi. En fait, il y a plein de possibilités. Et si vous souhaitez avoir quelques pistes de réflexion sur le sujet, je vous invite à aller voir floriteller.com/tag/introspection pour voir des articles, podcasts et vidéos qui pourraient vous donner quelques idées si vous en avez envie. C'est tout pour la session Q&A de ce trimestre. J'ai sélectionné moins de questions, mais j'y ai passé du temps, donc je vais m'arrêter là. Dans tous les cas, je fais de mon mieux pour vous répondre quand vous m'envoyez des questions, sans forcément attendre la bulle nomade trimestrielle sur le sujet. Dans tous les cas, la prochaine concernera les questions de l'été et sortira courant septembre 2019. En attendant, j'espère que ces réponses vous ont été utiles. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !